Alléluia. Prenez place, frères et sœurs bien-aimés, et je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20 et au verset 1er. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui est une parole de vie, qui est puissante, vivante, agissante encore aujourd'hui. Merci pour toute bonne œuvre que tu veux faire dans nos propres cœurs par ta grâce et pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, 2 Rois chapitre 20, verset 1er, voici ce que nous lisons. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel « Ô Éternel !» « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. « Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. En ce même temps, Bérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang, l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place. Relisons les versets 12 et 13. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent et l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. Il leur a tout montré. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela, hein, n'est-ce pas ? Quelque chose qui peut être naturel. Hein. Donc, certains d'entre nous, peut-être, auraient montré à ces étrangers, je ne sais pas, notre maison, notre jardin, notre bibliothèque, montrant les petits trésors, et les curiosités qu'il peut nous arriver de posséder. Hein. N'est-ce pas aussi une fierté très naturelle que lui qui était roi d'un si petit royaume ait réussi par son économie, par son bon gouvernement, à accumuler un trésor aussi large et aussi varié. Hein, ne pouvait-il pas montrer qu'il était prudent, économe, et ainsi se recommander comme un exemple à ses ambassadeurs babyloniens ? C'est exactement ce que l'homme voit. C'est la façon dont l'homme regarde. Mais Dieu regarde d'une autre façon. Hein, la parole de Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Hein. Les choses ne sont pas pour Dieu comme elles sont pour nous. Et des actions qui pour nous sembleraient innocentes et peut-être même louables peuvent être pour Dieu tellement haïssables qu'il fera brûler sa colère contre elle. Nous regardons une aiguille et à l'œil nu, eh bien, elle nous paraît aussi lisse que du verre, mais lorsque nous la mettons sous le microscope, eh bien, voilà qu'elle apparaît aussi rude qu'une barre de fer qui est mal forgée. Donc il en est souvent ainsi de nos actions. À nos yeux, aux yeux des autres hommes, elles peuvent paraître aussi brillantes que des aiguilles, mais sous le regard de Dieu, auquel rien n'échappe, elles sont remplies de rudesse et de péché. Et donc, une autre réflexion qui nous frappe, là, cette première lecture du passage, c'est que Dieu a une loi différente pour juger les œuvres de ses enfants que la loi qu'il applique aux étrangers. Nous pouvons voir que si Ézéchias, par exemple, à l'envers, avait envoyé les ambassadeurs à Bérodac-Baladan, celui-ci aurait pu montrer ses trésors sans commettre aucun péché. Et Dieu n'aurait pas été en colère et Dieu n'aurait pas envoyé un prophète pour prophétiser des paroles de malédiction et de châtiment. Hein. Mais Ézéchias n'est pas Bérodac-Baladan, et il ne doit pas agir comme lui. Bérodac-Baladan, dans le royaume de Dieu, il n'est qu'un esclave. Ézéchias, dans le royaume de Dieu, il est un prince. Le premier donc, est un étranger, le deuxième est un enfant chéri et bien-aimé du Père Céleste. Et ça, c'est important. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre, parce que nous aussi, nous avons des façons différentes de nous conduire avec les différentes personnes qui nous entourent. Si, par exemple, un étranger parle mal contre vous dans la rue, je pense que d'habitude, vous n'allez pas forcément y attacher beaucoup d'importance. Mais si c'est quelqu'un qui vous est proche, si c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup partagé, quelqu'un envers qui vous avez beaucoup d'affection et vous pensez que cela puisse revenir en retour aussi, alors ça nous touche au vif beaucoup plus. Hein. Nous admettons des personnes de notre intimité et nous nous attendons qu'elles agissent envers nous avec, je dirais, une délicatesse et une tendresse qu'il est déraisonnable d'attendre d'un étranger. Et de la même façon, c'est une chose solennelle que d'être un bien-aimé du ciel. Et là où un autre homme agirait en toute impunité, le bien-aimé de Dieu ne fera pas sans offenser le Seigneur et sans attirer de la part du Seigneur un châtiment bien mérité. Et donc, il faut savoir cela. Et il faut remarquer qu'en plus, cette action d'Ézéchias qui nous a rapporté ici n'est pas en elle-même un péché. Ce n'est pas un péché en soi-même ce qu'il a fait, mais c'est plutôt dans les motifs que nous ne pouvons pas juger, mais que Dieu, lui, a jugé. Que Dieu, lui, a sûrement jugé et sûrement condamné. Et spécialement, Dieu l'a condamné parce qu'Ézéchias avait été ainsi favorisé par la main de Dieu et que donc il devait prendre garde. Vous savez, un homme avec un habit sale et déchiré, il peut marcher dans certains endroits sans s'habiller plus son habit. Parce que là, un autre qui va être habillé de blanc, il ne pourra pas passer dans cet endroit-là parce que la moindre tache, ben évidemment, ça va pouvoir se voir. Hein. Sur ce vêtement sale, personne n'en verra rien. Mais sur le propre, plus il est propre, et plus la tâche est visible. Et puisqu'Ézéchias était un homme visité, je dirais, favorisé de Dieu, eh bien son péché s'est montré immédiatement. Et c'est pour ça que Dieu l'a visité à l'instant par ce châtiment. Alors, maintenant, notre premier chapitre, dans lequel nous voulons décrire les circonstances et l'état d'Ézéchias au moment de cette affaire. Expliquons un petit peu les choses. Donc, en premier, vous pouvez remarquer qu'il avait été l'objet de plusieurs faveurs extraordinaires. Nous le voyons très bien. Sennachérib, le roi d'Assyrie, avait envahi le pays avec une armée reconnue comme invincible. et probablement était-il invincible pour tous les moyens de guerre de l'époque. Donc, il avait ravagé divers états, il avait fait des prisonniers innombrables, il avait détruit les villes qu'il avait assiégées. Mais quand il est arrivé près de Jérusalem, il était incapable d'élever une tour de siège contre la ville et même de tirer la moindre flèche. Nous le voyons, parce que Dieu s'est interposé d'une façon étonnante et l'armée de Sennachérib a été abattue en une nuit. Elle est morte dans la plaine. Ça nous a rapporté 3 fois dans l'Ancien Testament, ce qui s'est passé là. Ce récit de délivrance est donné 3 fois dans l'Ancien Testament. Et ça a été une délivrance mémorable d'un ennemi aussi gigantesque qui pouvait être comparé au Léviathan entre les crocs duquel Dieu a mis un crochet et qu'il a fait ainsi retourner à l'endroit d'où il était venu. Ça, c'est la première grande chose que Dieu a faite pour lui. Après, en deuxième, en plus de ça, il avait été guéri d'une maladie diagnostiquée comme mortelle. C'était clair. Et il avait échappé d'une façon admirable alors qu'il se trouvait juste aux portes de la mort. Et là où un autre homme serait mort, 3 jours plus tard, lui pouvait monter à la maison de l'Éternel. Non seulement cela, en plus de ça, Dieu avait jugé bon de faire pour lui ce qu'il a seulement fait une seule fois auparavant pour Josué. C'est-à-dire qu'il a arrêté l'ordre de marche du ciel et il a fait reculer le soleil de 10 degrés sur le cadran solaire d'Akaz comme un signe par lequel la foi de son serviteur serait fortifiée. Et ce n'était pas une petite chose, vous savez. Ce n'est pas une petite chose. Quand la mort en bas et les cieux en haut sont tous les deux arrêtés dans leur cours pour en faveur de cet enfant du ciel. On le voit, quand les ombres de la mort et quand la lumière du soleil sont mises à contribution tous les deux pour lui prouver l'amour du Seigneur. Voyez la grandeur de la grâce et de l'amour de Dieu pour lui. Et non seulement cela, en plus, Dieu lui a accordé un courant inhabituel de prospérité. Tout était pour le mieux. Lorsque vous lisez en même temps les récits parallèles des Chroniques et d'Ésaïe, vous voyez qu'il a été enrichi par les cadeaux des rois du voisinage, qui étaient probablement remplis d'étonnement et de crainte en voyant que l'armée de Sennachérib avait été détruite sur le territoire de Juda. Et il a été certainement enrichi aussi par le commerce qu'il pratiquait comme Salomon avant lui. Et ainsi voyons-nous que Ézéchias, bien qu'un petit roi, s'est retrouvé soudain comme un homme riche. Et non seulement cela, de plus, il avait dans ses trésors quelque chose qui ne pouvait être vu dans les richesses d'aucun autre homme vivant. Et qu'est-ce que c'était ce quelque chose? C'était un décret de Dieu. Un décret du tribunal céleste d'après lequel il allait pouvoir vivre encore 15 années. Vous savez, il y a beaucoup de rois à l'époque qui auraient bien voulu avoir ça, eux qui craignaient pour la poursuite de leur règne jour après jour. Ils auraient bien voulu avoir un décret comme celui-là pour être protégés pendant une semblable période de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ézéchias, selon toute apparence, était un roi prospère. C'était quelqu'un que Dieu se plaisait à honorer. Mais vous savez, cette grande prospérité, ça a été aussi une grande tentation, bien plus difficile à supporter que la lettre de Rabshaké, avec toutes ces menaces qu'il y avait eues auparavant, et tous les maux que l'invasion avait apportés dans le pays, et combien il est nécessaire que nous réalisions cela aussi pour nous-mêmes. Beaucoup de serpents rôdent au milieu des fleurs de la prospérité. Les endroits élevés sont des endroits dangereux. Ce n'est pas facile de porter une coupe pleine avec une main ferme. Et un wagon chargé a besoin d'essieux qui soient solides. Et un bœuf bien nourri a besoin d'être bien mené, de rênes qui soient fermes là aussi. Donc voilà, ça c'est première remarque dans notre chapitre, là, dans le premier chapitre. Et puis une autre qu'on peut faire aussi, c'est qu'on voit que Ézéchias était devenu un homme particulièrement remarqué, particulièrement en vue. Voilà, devenu célèbre parce que toutes les nations d'alentour avaient entendu parler de la destruction de l'armée de Sennachérib. Sennachérib, c'était l'ennemi commun de tous ces petits royaumes, de tous ces petits roitelets qu'il y avait là, et même des grands rois comme le pharaon d'Égypte avaient une très grande crainte du roi d'Assyrie. Il était donc certain que la nouvelle se répandrait partout, que c'était dans le pays de Juda que le tyran avait été arrêté et qu'il avait été vaincu. Le retour du soleil en arrière devait avoir aussi frappé de toute évidence toutes les nations. Et ce n'est pas pour rien que ce sont les Babyloniens qui sont cités comme ayant envoyé une ambassade, parce qu'on le sait, par l'archéologie et par l'histoire, les Babyloniens étaient de grands spécialistes en astronomie, en observation des corps célestes, et donc voilà que la bouche des foules était remplie d'Ézéchias, tout le monde parlait de lui, sa guérison, sa victoire, sa richesse, c'était de grands sujets de conversation lorsque les gens se rencontraient, et quelle tentation que tout cela. Vous savez, marcher devant Dieu, marcher devant le Seigneur sur la terre des vivants, c'est une marche heureuse, c'est une marche qui est sûre. Mais marcher devant les hommes, c'est quelque chose qui est rempli de périls. Être salué avec des applaudissements, baigné dans la popularité, c'est toujours dangereux. Et il aurait fallu beaucoup de grâce dans une telle situation, mais hélas, ce roi ne l'a pas recherché comme il aurait dû le faire. Et puis une chose qu'on peut remarquer encore, qu'on doit remarquer encore, c'est qu'Ézéchias avait des occasions remarquables d'utilité et de service pour Dieu dans cette situation, comme il aurait pu agir pour honorer le Dieu d'Israël. Rarement, un homme a de telles occasions de déclarer la grandeur et la bonté de Dieu à autant d'autres personnes. On le voit bien. Comment Ézéchias, si tu avais été dans ton bon sens et que tu te sois confié à la grâce de Dieu, quel sermon tu aurais prêché avec la mort et le ciel en arrière-fond et la puissance éternelle de Dieu comme thème? Combien tu aurais pu dû faire résonner les palais des princes du nom de Yahvé? Tu aurais dû te mettre toi-même à l'arrière du tableau et puis remplir toute la terre de ce témoignage à la gloire de Dieu. Combien tu aurais pu t'exclamer avec triomphe « Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Eva, d'Ena et d'Iva? Lesquels d'entre eux ont délivré les nations de la main de Sennachérib? Lesquels d'entre eux auraient pu dire au soleil « Recule sur les degrés d'Akkaz » Lesquels d'entre eux auraient pu relever leurs adorateurs d'une maladie mortelle? Mais l'Éternel dirige toutes choses. Il est dans les cieux en haut et sur la terre en bas. C'est lui le roi. Il aurait dû faire cela, n'est-il pas vrai? Il avait tous les moyens de faire cela. Il aurait dû faire comme Moïse lorsqu'il a eu cette grande délivrance. Le cantique de Moïse, rappelez-vous, dans lequel Myriam répondait aux femmes, donc avec le tambourin, « Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. » Et c'est vrai que ça aurait tellement mieux valu que d'exalter son propre nom parmi les hommes et de montrer ses trésors aux ambassadeurs. Nous voyons cela. Et plus que tout autre, bien sûr, il aurait dû aimer Dieu et se consacrer à lui. C'est ça qu'il aurait dû faire. Toute vie est sacrée pour Dieu. Toute vie devrait lui être consacrée, parmi nous tous qui sommes ici en particulier. Mais une vie qui est prolongée d'une façon aussi miraculeuse aurait dû lui être particulièrement consacrée, n'est-il pas vrai? Mais il est écrit dans le livre des Chroniques que son cœur s'éleva dans cette circonstance. Alors il a reçu les bénédictions, mais il ne s'est pas prosterné devant celui qui les accordait, ou alors il ne s'est prosterné que bien peu de temps devant lui. Il a profité du fruit, mais il a oublié l'arbre. Il a bu au torrent, mais il n'a pas considéré la source. Il a pris l'huile sainte de l'autel d'amour et il l'a brûlée dans le foyer de l'orgueil. Et où son orgueil a-t-il trouvé à s'alimenter? Eh bien, dans le miracle que Dieu avait fait dans son pays, ce pays dont il est le roi, pour abattre ce puissant ennemi. Voilà, il avait la certitude de vivre 15 ans, et combien nous serions probablement enorgueillis nous-mêmes si nous avions une telle assurance en dehors de la communion avec le Seigneur. Et cette certitude lui avait été donnée par Dieu, donc il a dû croire en sa propre excellence, et il n'a pas fait comme David, qui a dit « Quand je vois les cieux, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu créas, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, et le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Mais il a écouté le murmure satanique qui lui disait « Combien tu dois être grand, quand la lumière du jour elle-même doit reculer pour te faire plaisir ?» Eh oui, c'est vrai. Et ensuite, quand il faisait le tour de ses magasins, il y avait là beaucoup pour l'enorgueillir, parce que les possessions humaines sont pour l'homme ce qu'est le gaz pour le ballon, vous savez, ça le fait gonfler, s'élever sans qu'il y ait rien à l'intérieur. Ça, c'est une triste réalité. Et puis, il y a eu tous ces ambassadeurs qui sont venus de toutes parts, qui ont déposé leur présent à ses pieds, qui lui ont apporté leur hommage à cause de son bonheur présent. C'en était trop pour sa pauvre tête. Eh oui, Hein. Et pendant qu'il marchait au milieu de ses champs, de son armurerie, de ses chambres à trésors, de ses greniers, de ses choses précieuses, eh bien, il a fini par se dire, ben voilà, je suis un grand homme, et son cœur s'éloignait de Dieu, pendant que la vaine gloire prenait possession de son cœur. Voilà ce qui s'est passé, malheureusement. Ah, on voit cela. Et enfin, pour compléter la description, nous voyons que c'est à ce moment-là que Dieu a laissé son serviteur dans une certaine mesure pour l'éprouver. Ça nous est dit dans le passage parallèle. Dieu a laissé Ézéchias pour l'éprouver. Il ne l'a pas abandonné complètement, mais il l'a laissé un peu pour qu'il voie ce qu'il était, pour qu'il comprenne aussi ce qu'il était. Hein. Il devenait tellement grand, il s'enorgueillissait tellement de la faveur de Dieu, la propre justice était tellement entré en lui qu'il a commencé à se dire en lui-même, « Bon voilà, moi je ne suis pas comme le reste des hommes, certainement j'ai marché devant le Seigneur avec un cœur pur et parfait. » Alors Dieu l'a laissé pour lui montrer qu'il n'était qu'un pauvre pécheur insensé comme les autres après tout. Hein. Voilà. Et combien ça doit être, je crois, une leçon pour nous, afin que nous ne nous enorgueillissions pas de manière semblable. Parce que vous qui êtes les plus brûlants pour Christ, eh bien vous devriez, comme les Laodicéens, par la tiédeur. Hein, même si nous sommes très saints dans la foi, bien nous serons corrompus par l'erreur. Même si nous avons marché, je dirais, devant le Seigneur en excellence et en intégrité, eh bien, on est si faible que la première tentation venue nous ferait déchoir de notre fermeté. Il faut savoir cela. Hein, donc, il serait dit de nous ce qui a été dit du diable aussi. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Hein, donc voilà, et aussi lumineux que nous soyons lorsque la grâce resplendit sur nous, bien nous ne sommes plus que ténèbres si le Seigneur se retire. Et dans le meilleur des chrétiens, il y a assez de péché pour le transformer dans le pire des transgresseurs si Dieu l'abandonne. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre de réaliser notre incapacité. Et que nous n'ayons pas besoin, Dieu, par le secours de Dieu, de passer par le même chemin qu'Ézéchias pour la réaliser. Hein. Que nous puissions être préservés de l'abandon du Seigneur à cause de la vaine gloire de notre cœur. Amen. Amen. Mais voilà, notre deuxième grand point, maintenant, deuxième grand chapitre, il faut considérer l'occasion elle-même, le péché qui en est sorti. Donc, voici les ambassadeurs qui arrivent, et le devoir d'Ézéchias, dans ce cas, est bien clair. Hein, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Ben, il faut qu'il les reçoive avec courtoisie, bien sûr, comme le mérite leur office, la première chose. Et puis, il faut qu'ils considèrent leur venue comme une occasion d'apporter à ces Babyloniens idolâtres le témoignage du Dieu d'Israël. C'est l'occasion de leur expliquer comment le miracle dont il a été l'objet, et de leur expliquer que c'est par la main du seul Dieu vivant. Et quand Ésaïe aurait posé la question qu'il a posée, il aurait dû pouvoir répondre, « Eh bien voilà, je leur ai parlé des actions puissantes de l'Éternel, j'ai publié son grand nom, je les ai renvoyés dans leur pays pour dire partout que le Dieu Tout-Puissant règne, qu'il règne sur toutes choses et en tout lieu. » C'est vrai, il aurait dû faire cela. Et puis, il aurait dû être très prudent avec ces hommes. Pourquoi ? Parce que c'était des idolâtres, justement, vous savez. Et les idolâtres, c'est une compagnie dangereuse pour les adorateurs de l'Éternel. Hein. Et puis, il aurait dû prendre bien garde aussi de ne pas se vanter, ni de vanter sa force. Parce qu'il est bien clair que les miracles qui ont été accomplis n'étaient pas par sa propre puissance, mais c'était par Dieu seul et pour sa gloire seule. Hein. Il n'aurait pas dû être vaniteux de ses richesses, parce que vous savez, cette vision-là a suffi à ces nobles voleurs pour concevoir l'idée d'une expédition fructueuse dans l'avenir contre Juda. Et plus tard, lorsque les Babyloniens viendront envoyer pour Juda, ils auront avec eux le rapport de toutes les richesses qu'il y avait dans les trésors. Hein, tout ça parce qu'un Ézéchias vaniteux et insensé leur a montré. Il a montré à ceux qui les ont précédés. Donc ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que la voie qui lui est tracée était très claire, suffisamment claire. Il aurait dû leur parler de Dieu, il aurait dû leur proclamer le Dieu vivant, il les traitait bien sûr avec courtoisie, et puis ensuite les renvoyer en étant heureux d'être débarrassés d'une telle tentation. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Hein. Mais il nous est bon de voir en quoi son péché a consisté, parce que nous pouvons y découvrir plusieurs aspects. Déjà le premier, d'après Ésaïe 39, il a été très content et très réjoui de leur compagnie. Dans Ésaïe 39, verset 2, il est marqué « Ézéchias en eut de la joie ». Et notre passage d'ailleurs, que nous avons lu, nous laisse comprendre qu'il les a recherchés, avec un plaisir évident. Et ça, ce n'est pas un bon signe, vous savez. Quand un vrai chrétien prend grand plaisir à être continuellement dans la compagnie des gens du monde, spécialement des idolâtres et des profanes. Et vous savez, les Babyloniens, c'était des idolâtres impénitents. Il n'y a pas beaucoup de gens plus idolâtres qu'eux. Peut-être les Égyptiens, peut-être les Hindous. Peut-être, voilà. Hein, donc, alors, la courtoisie est due à tout le monde, bien sûr, hein, par les chrétiens, mais pas une union et une communion qui n'est pas sainte. Hein. Il est marqué, ne vous mettez pas sous un même joug que les incroyants. Ça ne concerne pas seulement le mariage, mais ça concerne aussi tout engagement à terme avec un partenaire inconverti. Quelle communion y a-t-il entre Christ et Bélial, nous dit l'Écriture. Hein. Il a commis ce même péché que Josaphat a fait lorsqu'il a voulu aller chercher de l'or à Tarsis en association avec le roi idolâtre d'Israël. Bon, c'est un autre moment, une autre période. Et Dieu a fort justement brisé ses navires à Ezion-Geber. Hein, donc, parce que si les serviteurs de Dieu s'associent aux ennemis du maître, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils les approuvent. Hein, mais plutôt au contraire. Ensuite, une deuxième chose qui a été vraiment quelque chose, un aspect de leur péché, c'est qu'il s'est reposé sur une alliance avec eux. Hein, donc, l'insignifiance de son propre royaume, parce que le royaume de Juda, c'était peu de choses, hein, vous savez. L'insignifiance de son propre royaume aurait dû le pousser à se confier en Dieu seul, d'autant plus que Dieu l'avait déjà admirablement défendu. Mais le voilà qui veut s'associer avec les Babyloniens. Donc, les Babyloniens, c'était la puissance qui montait à l'époque. Hein. Vous aviez les Assyriens d'un côté, qui venaient d'être chassés, et puis plus loin, à l'est, vous aviez les Babyloniens qui commençaient à s'élever. Hein, donc, et il a pensé que c'était de bonne politique que de faire comme ça. Ah oui, peut-être que même ses ministres, les ministres des Affaires étrangères, lui ont dit que c'était une bonne politique que de faire comme ça. Mais vous savez, Dieu ne supporte pas que son peuple abandonne la confiance en son bras pour se confier en un bras de chair. C'est pour ça que dans Jérémie, au chapitre 17, nous lisons au verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Alléluia. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu désire. Et puis je dirais que son péché suivant a été son silence coupable à propos de Dieu. Est-ce que c'est ça, être poli? Ne jamais parler de Dieu à personne? Hein, est-ce que sous prétexte de politesse, il faut taire son témoignage, hein, c'est Rowland Hill, donc, auquel justement, c'était un homme de Dieu du 19e siècle, donc c'est un évangéliste, un homme qui témoignait. C'est toute occasion pour témoigner. Et puis un jour, il y a un chrétien d'une église où il allait, qui s'est plaint, qui a dit « Oui, mais Rowland Hill, vous savez, c'est quelqu'un, il est trop ardent pour témoigner, quoi. C'est dérangeant pour le monde. » Puis c'est dérangeant pour lui, surtout, apparemment. Hein. Donc, voilà. Et puis il dit « Il parle trop fort. » Puis Rowland Hill lui a dit, il était arrivé à son intermède, et puis il a dit « Mais il y a quelques jours, j'ai assisté à un accident de chantier. » Il expliquait, il y avait eu un affaissement de terrain sur plusieurs ouvriers qui étaient là. Et il dit à ce moment-là, j'ai hurlé au secours, aussi fort que j'ai pu. Et j'ai été entendu jusqu'au village suivant qui était à près de 2 kilomètres. J'ai entendu là-bas, et heureusement, parce qu'ils sont venus, et ça a permis de sauver des vies. Il dit, mais alors, les âmes périssent, et on ne devrait rien dire. Il dit. Voilà. Et ça, c'est aussi une réalité. Hein. Il faut utiliser les occasions. Oui, c'est vrai, il faut le faire avec prudence, mais aussi avec courage. Il faut guetter les failles pour présenter l'évangile de Christ. C'est important. Hein. Et honte aux langues et aux lèvres silencieuses qui connaissent le Seigneur et qui ne parlent pas de lui. Hein. Donc, par l'amour qui a été manifesté pour nous sur la croix, eh bien, apportons un peu de cet amour autour de nous à nos semblables qui en ont tellement besoin. Amen, amen. Par contre, vous pouvez considérer que son péché est d'autant plus grave que s'il se taisait à propos de Dieu, il s'est bruyamment vanté à propos de lui-même. Ah ben ça, voilà, hein, c'est un quatrième aspect de son péché. Donc, il avait peu de choses à dire à propos de Dieu, mais il avait beaucoup de choses à dire à propos de son or et de son argent et de ses armes et du reste. Et certainement aussi qu'il a parlé du canal, de l'aqueduc qu'il avait fait, des autres travaux d'ingénierie qu'il avait accomplis. Et il a voulu faire remarquer combien il était un grand homme, même si ce n'était pas dit en parole. Il s'est glorifié lui-même et s'est glorifié devant les personnes même qui allaient profiter de lui. Vous voyez, comme quoi l'orgueilleux, c'est un insensé. Donc voilà, quand même. Et puis son péché aussi a été dans le fait qu'il s'est mis au même niveau que ces Babyloniens. Ça aussi, c'est quelque chose. Supposez que lui soit allé vers eux. Hein. Qu'est-ce qu'il lui aurait montré ? Eh bien, certainement, exactement, le même genre de choses qu'il leur a montré. Peut-être qu'ils auraient été plus intelligents que lui, qu'il ne lui aurait pas tout montré, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, il lui aurait certainement montré le même genre de choses. Quand un chrétien agit continuellement comme un homme du monde, comme quelqu'un du monde, est-ce qu'il est possible qu'il agisse toujours justement ? Vous savez, lorsque vous avez deux arbres qui portent le même fruit, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Ben, c'est qu'ils sont de la même sorte, n'est-il pas vrai ? C'est qu'ils sont de la même espèce, hein, que nous puissions haïr ce péché d'Ézéchias et ne pas vouloir faire concurrence aux gens du monde dans les joies du monde. Hein. Si quelqu'un vous dit « voici mon trésor », parlez-leur de votre trésor. Notre trésor à nous est dans les cieux. Hein, c'est la cité céleste de Dieu, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est là qu'est notre trésor. Et si vous parlez de leur plaisir terrestre, eh bien, parlez-leur de la paix que vous avez, de la joie que vous avez, de l'amour que vous avez en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que, surtout aujourd'hui, par les temps qui courent, eh bien, je vous assure que c'est véritablement un trésor. On le voit bien que ça vaut largement la peine. Béni soit Dieu. Amen. Et puis alors notre grand problème, malgré tout, notre grand problème, c'est la suite. Hein, parce que là, arrivé à ce point, nous allons poursuivre notre lecture. Donc là, c'est dans le chapitre 21, maintenant, il est question de Manassé. Parce que ça, je dirais, c'est la conséquence la plus attristante et la plus lamentable du comportement d'Ézéchias. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephtsiba. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Souvenez-vous, c'est le fils d'Ézéchias, tellement pieux. Hein. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoi que l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. » Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruite devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes, par ses serviteurs les prophètes, donc ça veut dire qu'il a parlé plusieurs fois, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. C'est dit d'aucun roi, ça. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous savez, un passage comme ça, ça, je crois, plonger, de quoi plonger dans la crainte tous les parents d'enfants, tous les parents croyants, qui peuvent avoir fait de bonnes expériences avec Dieu même, en ce qui concerne leurs propres enfants. Vous savez, Manassé, c'était l'enfant du miracle. Manassé était né pendant la fameuse période de 15 années supplémentaires que Dieu avait donnée au roi Ézéchias, hein, puisqu'il est dit qu'il avait 12 ans à la mort de son père. Donc voilà, et on peut imaginer que dès sa naissance, il a été accueilli comme cela, et puis voilà, parce qu'enfin Ézéchias avait un fils pour un héritier, un successeur à la royauté, et certainement on avait dû lui dire « Tu es l'enfant du miracle, tu es l'enfant du miracle !» Certainement il avait dû entendre ça, hein. Mais comment est-ce qu'il est possible que dès l'âge de 12 ans, il soit devenu aussi opposé aux choses de Dieu, et ça a duré 55 ans, hein, aussi endurci, aussi idolâtre, aussi malfaisant, aussi meurtrier, aussi cruel que cela, aussi rebelle à la parole de Dieu, annoncé pourtant par plusieurs prophètes, aussi dépourvu de crainte de Dieu. Vous savez, le salut des enfants de chrétiens, des enfants de croyants, même des enfants de chrétiens qui ont eu des miracles, ce n'est pas quelque chose de garanti. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'assuré de manière automatique. Hein. On pourrait le dire, surtout dans notre monde actuel, mais c'est encore autre chose. Hein. Mais il faut quand même considérer les raisons que nous donne, que nous laisse entendre la parole de Dieu dans la vie et le comportement d'Ézéchias, qui a eu quand même une responsabilité très importante à ce niveau-là. Hein. Donc, déjà une première erreur, une première faute, Ézéchias, c'est qu'il s'est reposé sur ses expériences passées, sans chercher à en faire de nouvelles avec Dieu. On le voit. Il a dû penser, voilà mon fils, il va tenir compte de ce que j'ai vécu, de ce qu'on va lui dire à ce sujet. Il va y prendre garde, il va en tirer des leçons. Et je pense que Manassé, bien des fois, a dû entendre ce récit merveilleux de la guérison miraculeuse de son père et de la façon dont ils avaient été délivrés les Assyriens et de l'ombre qui avait reculé sur le cadran solaire d'Akaz. Mais vous savez quoi ? Pour lui, ce n'était que du passé. Hein. C'était que de la théorie qui était déconnectée de toute réalité. Pourquoi ? Parce que son père ne vivait plus de véritable vie de foi à ce moment-là. Parce que lui, le fils, n'avait pas été témoin des expériences de foi de son père et encore moins participant d'expériences de foi de son père. Et ça, c'est un problème. Et par conséquent, pour Manassé, la piété et la croyance d'Ézéchias n'étaient rien de plus qu'une foi théorique et même peut-être une religion morte, déjà comme ça. Déjà ça. Ensuite, nous voyons que Ézéchias, c'est quelqu'un qui n'a pas manifesté le moindre signe de repentance et d'humilité aux yeux de Manassé. Lorsque la ville de Jérusalem avait été assiégée bien longtemps avant par l'armée de Sennachérib, alors vous voyez qu'Ézéchias avait su s'humilier. Hein. Ah ben là, il avait su se repentir, il avait su se mettre à genoux, il avait su crier à Dieu, il avait su s'abaisser, supplier le Seigneur avec joie, oui. Et voyez la grande délivrance que le Seigneur lui a accordée. Lorsqu'il a été atteint de cette terrible maladie, là encore, quel pleur ! Il est marqué qu'Ézéchias se retourna contre le mur et qu'il versa d'abondantes larmes. Quelle repentance, quel cri à Dieu ! Et quel miracle admirable à cause de cette bonne disposition de cœur que Dieu voit en Ézéchias à ce moment-là. Mais hélas, Manassé n'a plus rien vu de ça pendant sa vie. Mais hélas, ça a été comme cela. Vous savez, l'importance de la repentance, c'est quelque chose qui doit nous suivre tout au long de notre vie chrétienne. Si on est vraiment chrétien, ça veut dire qu'on s'est converti à Jésus-Christ un jour. Et si on s'est converti à Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est passé par la repentance et la foi, n'est-il pas vrai ? Ça, c'est fondamental. Mais ce n'est pas juste l'expérience d'un jour. C'est un état d'esprit, ça. C'est une attitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est prêt à demander pardon, à s'humilier lorsqu'il le faut, même devant les enfants s'il le faut, après tout. Hein. Ça veut dire que les enfants, il faut qu'ils puissent voir en nous qu'on est quelqu'un qui se repent, qu'on est quelqu'un qui s'humilie, parce que dans la vie, on n'est pas sans manque, sans faute de toutes sortes, hein. C'est sûr et certain. Et lorsque les enfants voient cela, qu'est-ce qu'ils réalisent ? Ils réalisent, on leur apprend à détester le péché, à le rejeter, et puis on les encourage aussi à être honnêtes eux-mêmes quant à leurs tentations, quant à leurs difficultés, quant à leurs manquements, hein, sans forcément parler de celles de leurs frères et sœurs, hein, et chacun doit se sentir responsable de ses propres erreurs. Mais ça passe par une attitude de vraie repentance. Et malheureusement, Manassé n'a plus vu cela chez son père. Il n'a pas vu cela chez son père du tout. Et que voyons-nous encore? Eh bien, Ézéchias a aussi manifesté son égoïsme et son égocentrisme à l'encontre de Manassé. Là, ça c'est peut-être aussi quelque chose vraiment qui a cassé quelque chose dans le fils. Hein. Quand le prophète Ésaïe est venu reprendre Ézéchias parce qu'il avait montré ses trésors aux ambassadeurs de Babylone, l'attitude normale d'Ézéchias aurait dû être quoi ? Ça aurait dû être de dire, mais Seigneur, je te demande pardon, parce que voilà, cette parole de châtiment, cette parole qui va toucher mes successeurs, qui va toucher l'avenir de mon royaume, c'est vraiment quelque chose de terrible. Seigneur, tu as déjà changé une parole de jugement me concernant, est-ce que tu ne pourrais pas encore la changer ? Il aurait dû se repentir et s'humilier, comme il avait su le faire autrefois, n'est-il pas vrai ? C'est ça qu'il aurait dû faire, on le voit. Hein. Donc, il aurait dû demander un conseil à l'homme de Dieu pour lui demander comment faire pour que cette sombre prophétie puisse être changée. Donc, mais non, qu'est-ce qu'il fait ? Il en tire quelque chose de favorable pour lui, parce que c'est ça qui l'intéresse, la sécurité et la paix pour lui, après moi, le déluge. Voilà. Et vous savez, d'une façon ou d'une autre, c'est sûr et certain que la prophétie d'Ésaïe, avec la réaction de son père, sont arrivées aux oreilles de Manassé. Imaginez ce que ça a produit dans le gamin. Hein ? Imaginez. Hein ? Il a dû se dire, mais mon père ne pense qu'à lui. Donc, pour lui, je n'ai aucune importance. Hein, et sa croyance, sa religion, n'y change rien. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il raconte à propos des miracles de Dieu est soit faux, soit sans rien d'importance. Donc, tout son discours de religion, ça ne vaut rien. Donc, il faut que je me débrouille moi-même si je veux m'en sortir pour régner plus tard. Et puisque la religion de mon père était aussi fausse et superficielle, puisque celle le rend tellement égoïste, eh bien, je vais la rejeter et je vais agir à l'opposé. Voilà ce que je vais faire. Et il l'a fait. Terrible, hein ? Terrible. Voyez les choses. Et puis Ézéchias, on voit encore une autre chose, c'est qu'il a manifesté aussi sa propre justice. Ah oui, là aussi, à l'égard de Manassé, hein, oui. Alors, il a dû tomber dans ce piège de l'orgueil dont nous avons déjà dit quelques mots tout à l'heure, mais il a oublié que c'était par la pure grâce de Dieu qu'il en était arrivé là. Il a oublié l'humilité et que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais béni soit son nom, il fait grâce aux humbles. Et il s'est imaginé qu'il avait quelques mérites à cause de ce que Dieu avait manifesté. Et en manifestant ainsi cet orgueil spirituel, il s'est rendu imbuvable aux yeux de son fils. Je pense que son fils ne le supportait plus. Il ne supportait plus son père. Il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas supporter. Vous savez, on peut donner des apparences de piété et tromper un certain nombre de gens pendant un temps. Mais un jour, en tout cas les enfants, on ne les roulera pas toujours. Hein. Vous savez, les enfants ne racontera pas toujours des histoires. Hein. Donc, et si la réalité ne correspond pas avec la sincérité du cœur, c'est fini. C'est mort. Hein. Ça faut bien se dire cela. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Et puis, je dirais qu'Ézéchias a aussi manifesté son manque de proximité vis-à-vis de Manassé. Ah, moi, Ézéchias, je n'ai pas le temps de m'occuper de l'éducation de mon fils. Je vais la déléguer. Tiens, voilà, il y a des précepteurs, et puis il y a des professeurs, et puis il y a de ceci, et puis cela. Mais je n'ai pas le temps. Je suis un homme trop occupé. Voilà, il y a des ambassadeurs qu'il faut que je reçoive, des affaires importantes qu'il faut que je traite, il y a des travaux qui sont à réaliser. Je suis très occupé. Et puis, on peut rajouter les cérémonies dans le temple aussi, pourquoi pas. Oui, tout ça, on peut le rajouter. Mais le problème, c'est que Dieu n'était plus la priorité dans sa vie. Donc, il a perdu le sens des priorités par ailleurs aussi. Hein ? Donc, il a perdu le sens de la priorité qu'il y avait à l'éducation de son fils. Et ça, ça a été aussi quelque chose de désastreux. Il était absent lorsqu'il devait être présent dans les choses spirituelles pour son fils en particulier. Et puis, je dirais, Ézéchias a aussi manifesté son manque de piété véritable, son manque de prière vis-à-vis de Manassé. Même si rien ne nous est dit, nous voyons bien qu'Ézéchias n'était plus du tout dans l'esprit de piété, de foi, d'amour de la parole de Dieu, de communion avec le Seigneur dans la prière. Et pourtant, combien cela aurait été nécessaire. Quels grands enjeux spirituels il y avait dans la conversion et dans la consécration de Manassé. C'était fondamental. Mais il pouvait faire tous les efforts qu'il voulait. Si tout était détruit par son successeur, après, à quoi ça servait ? Et voilà. Hein ? C'est Philippe Jacques Spener qui a été l'inspirateur du piétisme en Allemagne, qui avait un fils intelligent, mais qui, devenu grand, a résisté à l'appel de l'Évangile et qui s'est livré à la passion, à des débauches. Il est demeuré insensible aux larmes de son père, comme au châtiment de Dieu. Et Spener priait constamment pour lui, qu'il soit dans la rue, en voyage ou chez lui. Dès que la pensée de son fils lui traversait l'esprit, une supplication montait vers Dieu. Et un jour enfin, le fils de Spener est tombé très gravement malade et il a cru son dernier moment venu et il s'est senti sombrer dans un abîme à la pensée de sa vie passée et soudain, sa frayeur s'est changée en espérance, en une douce émotion, en une vive espérance. Il s'est crié « Les prières de mon père m'entourent comme des montagnes » et ça a été le début de sa conversion. Et puis il s'est converti après. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un père qui avait en vue les enjeux spirituels réels et importants. Amen. Hein. Et puis, hélas, nous voyons évidemment qu'Ézéchias a manifesté un manque d'amour, un grand manque de compassion pour Manassé. Et là encore, c'est quelque chose d'extrêmement lamentable, quelque chose d'extrêmement attristant. Mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Enfin, nous voyons ceci nous amène maintenant à notre conclusion. Donc, ce qui est important pour nous de retirer comme leçon de ce récit, il y en aurait bien à tirer, hein, on pourrait faire bien des messages sur un texte comme celui-là, mais considérons ce qui est dans le cœur de tout homme. Dans le cœur de tout homme, eh bien, la vaine gloire est facilement là, vous savez. Elle est facilement là. Vous êtes humble aujourd'hui, mais on sera orgueilleux comme Satan si la grâce de Dieu nous laisse. Et il faut quand même réaliser cela. On se connaît peu, même quand on est de nouveau, on connaît peu la méchanceté de notre vieille nature. Hein. Et certainement, il n'est pas possible que chacun d'entre nous connaisse la plénitude de culpabilité dont nous serions capables. Oui, on en parle, on le dit, mais trop souvent, il y a des gens, ils vont dire oui, ils vont dire amen, ils vont être d'accord, en théorie. Mais si vraiment c'est le cas en pratique, ben ça va nous pousser dans les bras du Seigneur pour nous faire échapper à cela qui est en nous. Hein, parce que si on n'est pas près du Seigneur, eh bien c'est ça qui va se saisir de nous tout à nouveau. Et si on craint la mauvaise nature qui est encore là en nous, eh bien on va se précipiter dans les bras du Seigneur pour que ce soit la nouvelle nature qui prenne le dessus avec son secours. Amen. C'est primordial cela. Et puis que nous puissions aussi dénoncer la vaine gloire partout où elle se trouve, vous savez, il n'y a pas besoin de se trouver sur un trône comme Ézéchias pour manifester de la vaine gloire, hein. Vous savez, il y en a qui manifestent de la vaine gloire dans des haillons, hein. Il y en a qui manifestent de la vaine gloire dès qu'ils ont quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, vous les voyez qu'ils les dépensent n'importe comment, ils font n'importe quoi avec, par exemple, je ne sais pas moi, il y a toutes sortes de choses qui sont ainsi, et il faut prier contre l'orgueil et la vaine gloire pour que nous en soyons garantis, quel que soit notre état et notre situation. Enfin, il nous faut crier au Seigneur pour qu'il ne nous abandonne jamais. Hein. Donc, il ne veut pas nous abandonner, mais que nous ne mettions pas dans une position où il arrive ce qui est arrivé à Ézéchias, on le voit, que le Seigneur ne nous enlève pas une mesure de sa présence. Que le Seigneur nous garde partout, qu'il nous garde dans la vallée, pour qu'on ne murmure pas contre notre abaissement, mais que nous placions toute notre confiance en lui. Amen. Seigneur, garde-moi sur la montagne, pour que je ne devienne pas stupide d'orgueil, parce que j'étais un petit peu élevé, mais que je me glorifie en toi et en toi seul. Amen. Garde-moi dans ma jeunesse, quand mes passions sont fortes, garde-moi dans mon âge avancé, quand je suis trompé par la persuasion de ma propre sagesse et que je peux devenir ainsi un plus grand insensé que même les plus jeunes et que je te bénisse toujours avec reconnaissance et humilité. Garde-moi jusqu'à la mort, de peur que jusqu'au dernier moment, je ne te renie, mais que je m'attache au contraire de plus en plus à toi, Seigneur, et aux choses du ciel. Garde-moi dans la vie. Garde-moi dans la mort, garde-moi dans le travail, garde-moi dans la souffrance, garde-moi dans le combat, garde-moi dans le repos, garde-moi partout et en tout temps, et parce que j'ai besoin continuellement de toi, ô Seigneur. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Te remercions parce que tu es encore celui qui parle à nos cœurs, à nos âmes. Tu nous montres cette nécessité de t'adorer, de te servir en esprit et en vérité. Les apparences sont une chose. Que la réalité profonde puisse leur correspondre aussi et qu'il puisse en être ainsi pour chacune et chacun d'entre nous par ton soutien et par ton secours, Seigneur. Merci notre Dieu. Bénis ta parole pour nos cœurs, qu'elle puisse accomplir toute ton œuvre et à toute ta gloire dans nos âmes. Béni sois-tu. Amen. Amen. Alléluia.